Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local de ce vendredi 8 avril. Je suis ravie de vous accueillir sans Andy aujourd'hui, comme chaque vendredi, et oui, il nous quitte, mais il revient bien sûr lundi. Ça ne va pas nous empêcher de passer une bonne émission, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un très joli spectacle poétique proposé demain à Laval. Ça s'appelle La mécanique de Petit Pierre, et on va parler art brut, mais aussi personnes en situation de handicap, et puis comment on surmonte tout ça, et ça donne un très joli spectacle proposé par la compagnie du Moulin en Herbe. On en parlera, ce sera notre reportage, et puis on va aussi marcher, ou aller en tout cas, du côté de la Cité du Lait à Laval, avec la réouverture proposée et prévue demain. Ça, ce sera l'interview de Christophe. Et puis comme chaque vendredi, on retrouve notre chronique sport autour de l'arbitrage, aujourd'hui avec le témoignage d'un arbitre de niveau national en basket qui nous expliquera à la fois son parcours et nous donnera aussi son avis sur les évolutions de l'arbitrage et les éventuels problèmes croisés en ce moment. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. Pas assez de bio dans les cantines scolaires, selon la minorité écologiste à la région, qui appelle à augmenter cette part d'alimentation biologique dans les cantines scolaires. On y propose pour l'instant 10,7% de bio et 27% de produits sous label de qualité. Les élus minoritaires appellent la majorité régionale à proposer 50% de produits bio et 100% de viande et poissons locaux d'ici la fin du mandat. 2 ans de prison pour l'automobiliste responsable de la mort d'un jeune conducteur de scooter. L'accident s'est produit le 8 février dernier à la Chapelle Rinsoin. Cet automobiliste a percuté le scooter du jeune homme de 16 ans qui est mort sur le coup. Le chauffeur était hier devant le tribunal correctionnel de Laval. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme exécuté sous bracelet électronique. L'homme de 75 ans disparu à Andouillé a été retrouvé mort. Il avait été vu pour la dernière fois le samedi 19 mars, mais son corps a été retrouvé dans la Mayenne mardi à Saint-Jean-sur-Mayenne par un gendarme qui effectuait une surveillance du secteur. L'enquête est toujours en cours. Dernière journée pour la campagne officielle de l'élection présidentielle. Dès ce vendredi soir minuit, il ne sera plus possible de publier des sondages ou de réaliser des interviews. Les réunions publiques, la distribution de tracts et la propagande en ligne des candidats seront aussi interdits jusqu'à dimanche à 20h. Et pour aller voter ce dimanche à Laval, la ville a mis à disposition un minibus de 9h à 13h dimanche, donc pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez en profiter sur rendez-vous au 02 43 49 46 69. Au total, en Mayenne, ce sont plus de 224 000 personnes inscrites sur les listes électorales qui sont donc invitées à se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche, qui sont 356 répartis sur tout le territoire. Ils sont ouverts de 8h à 19h pour ce premier tour des élections présidentielles. Et puis, côté foot, les Tangos se déplacent à Saint-Brieuc ce soir. L'objectif, gratter des points vers la Ligue 2 avec un nouveau succès qui leur permettrait de franchir la barre des 60 points. Mais les joueurs du Stade Lavallois restent pour le moment prudents. Coup d'envoi du match ce soir à 19h. Un manège poétique fait de matériaux recyclés, de la musique, du théâtre, le tout inspiré d'une histoire vraie. C'est un peu tout ça à la fois, ce spectacle « La mécanique de Petit Pierre » proposé demain à Laval par la compagnie du Moulin en Herbe, du théâtre d'objets mettant à l'honneur l'art brut et le parcours de Pierre Avezard, dit Petit Pierre. Anne Chamaret et Pierre Chevaux reviennent sur l'origine de ce spectacle.
Il existe un musée entre Auxerre et Montargis qui s'appelle « La Fabuloserie », dans lequel est exposé le manège de Petit Pierre, qui plus précisément est un carrousel, que nous sommes allés visiter au hasard de nos vacances, un jour où on partait dans le Jura. On s'est arrêté, on a découvert donc ce manège et l'histoire du personnage qui a existé et qui a donc construit pendant toute sa vie, pendant 40 ans à peu près, ce carrousel avec uniquement des matériaux de récupération. C'était un monsieur qui est né handicapé en 1909. Il avait un syndrome qui faisait qu'il avait une déformation de son palais qui l'empêchait de parler. Il avait une déformation de l'oreille interne et des oreilles, donc il était presque sourd. Et il était vraiment tout biscornu.
On commence dans sa vie tranquillement avec des petits personnages, hein, c'est du maniement d'objets. Et puis petit à petit, nous construisons une forme de manège qui lui ressemble. C'est sa poésie, moi, qui me touche le plus. C'était ce qu'on appelle un homme bon.
C'est un personnage singulier, un humble, les gens humbles, qui font pas de bruit et qui font des merveilles dans leur petit coin.
Alors, il a récupéré jusqu'à des morceaux d'avion pendant la guerre, parce qu'en 1939-45, il y a un avion qui s'est affalé derrière dans un champ, et il a récupéré beaucoup de pièces.
Si le fait de voir ce spectacle peut donner l'envie aux gens d'aller visiter le musée, tant mieux, et puis de s'intéresser à l'art brut et à l'art singulier. C'est pas parce qu'il était handicapé qu'on tombe dans le pathos, on n'est pas là-dedans.
On est aussi parti un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on est parti de l'art brut, de la découpe de ferraille, d'arriver à ce qu'il voulait donner, et après on est parti dans son histoire pour maintenir tout ça, quoi.
Le tout avec des compositions musicales au piano dans une pièce avec peu de dialogue, accessible dès 5 ans. Deux représentations sont programmées demain à l'avant-scène à Laval, l'une à 16h et l'autre à 20h30. Vous pouvez réserver vos places au 06 82 18 85 64. Et puis une autre idée de sortie demain, la réouverture de la Cité du Lait à Laval avec un tout nouveau parcours proposé. On en parle juste après avoir écouté Work On de No Monkey Kids. C'était No Monkey Kids, Work On, c'est ce qu'on vient d'écouter dans l'agité du local. Vous êtes bien toujours à l'écoute de l'autre radio. Et puis je vous le disais juste avant cette pause musicale, la Cité du lait à Laval rouvre ses portes demain, samedi 9 avril. Le lancement donc de saison de l'espace musée créé par le géant laitier Lactalis, avec tout un historique des métiers du lait et un zoom sur la fabrication des fromages aujourd'hui. L'accent est mis, vous allez l'entendre beaucoup, sur les témoignages de salariés et de professionnels du secteur qui ont vécu aussi cette évolution des pratiques. L'interview est menée par Christophe.
Bonjour Virginie Lequillet.
Bonjour.
Vous êtes responsable des publics en charge de la programmation à la Cité du lait, le Lactopole. Alors je sais qu'aujourd'hui on gomme la partie Lactopole, on va en reparler dans un instant. On va parler de votre ouverture de saison. Alors la Cité du lait, c'est à la fois un site industriel historique et un musée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte de la création de cet espace ?
Oui, alors c'est un musée qui a ouvert en fait en 1999, au tout début. Donc c'est un musée qui effectivement... est né sous la volonté de Michel Beignet, qui est l'ancien directeur du groupe, aujourd'hui devenu Lactalis, qui était un passionné d'histoire et de tradition, donc qui a voulu ce musée un petit peu comme un témoignage de ce qui a pu se passer dans le domaine de l'industrie laitière, on va dire en 60-70 ans, puisqu'on est passé d'un milieu à la base assez artisanal à aujourd'hui une véritable industrie de pointe. Donc comment les techniques ont évolué, et puis aussi l'idée c'était de mettre en valeur le savoir-faire des fromagers et puis des métiers du lait. Voilà, donc à la base c'était plutôt réservé aux professionnels, plutôt un outil interne, puisqu'on recevait surtout des collaborateurs, des fournisseurs, voilà, plutôt ceux qui travaillaient dans le domaine laitier. Et puis étant donné la richesse de la collection lié au patrimoine laitier, on a voulu en fait le partager un peu plus avec le grand public. Et donc au début, on a commencé à recevoir des groupes. Le musée étant aussi un véritable espace pédagogique à ouvrir aux écoles, aux scolaires, aux familles. Et voilà, à devenir finalement aujourd'hui la Cité du lait depuis peu, parce qu'on a ce vrai programme riche d'animation culturelle, gourmande, autour du lait et du patrimoine laitier.
Et les professionnels et le grand public vont apprendre dans un instant ce que vous leur réservez à partir du 9 avril. Est-ce que vous pensez à titre personnel, Virginie Lequilly, que la longévité du groupe Lactalis provienne du fait qu'il demeure depuis toujours une entreprise familiale ?
Évidemment, oui, évidemment. Aujourd'hui, c'est trois générations, hein, finalement, puisque l'entreprise, elle est née en 1933, il faut le rappeler, à Laval, pas très loin d'ici. Et puis aujourd'hui, on est finalement au petit-fils, donc Emmanuel Beignet, qui perpétue un petit peu cet esprit et qui continue à faire vivre cette passion fromagère, cette passion laitière. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, on est un petit peu plus sur, on va dire, le marché international.
Oui, c'est ça, vous êtes une multinationale, mais est-ce que dans l'esprit d'équipe, il y a même, y compris entre les salariés, cet esprit de famille ?
C'est resté aujourd'hui, on a conservé cet esprit de famille qui représente effectivement l'histoire du groupe, quoi.
Alors vous proposerez, mais on va rentrer dans les détails juste après, donc une ouverture de saison le 9 avril. Il y aura un parcours interactif, multimédia, multisensoriel, immersif. Avant de rentrer dans le détail, il y a une volonté vraiment de rendre le public acteur de la visite en général.
Oui, alors c'est vraiment ce qu'on veut proposer cette année, effectivement, dans le cadre de cette programmation, c'est de pouvoir proposer au public d'expérimenter, de manipuler, de vraiment découvrir ses métiers, de la passion fromagère, on va dire, et de en famille ou avec sa tribu, de pouvoir partager et être acteur. Oui, effectivement, c'est vraiment ça. Autour aussi des sens, parce que c'est aussi une découverte sensorielle quand on découvre le lait et le fromage.
Le 9 avril, donc, ça démarre avec un travail, enfin la restitution d'un travail de mémoire orale. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, on a effectivement depuis quelques années établi un travail de mémoire orale qui a pour but de collecter des informations concernant le travail d'anciens salariés qui ont fait leur carrière, hein, dans le milieu laitier et dans l'entreprise, dans le groupe Lactalis. Ça a été un long travail parce qu'il faut réussir effectivement à, au-delà de parler de l'évolution des techniques, c'est aussi parler de l'évolution de société et puis de parler d'histoire d'hommes et de femmes qui ont vraiment sont témoins de cette métamorphose. Et on a voulu le restituer ce travail à travers un récit. Et ce récit, il permet aux visiteurs de se plonger vraiment dans cet univers, dans l'histoire, comme ça. Donc là, il y a deux personnages qu'on va proposer. Ça démarre tout jeune, à 18 ans, au début des années 50. Et puis, on va raconter comme ça ce parcours avec des images d'archives, avec des ambiances sonores. Un peu sous forme de conte. Pour comprendre un petit peu le vécu et le ressenti de ces anciens salariés.
Et donc deux personnages, c'est monté comme une vraie pièce de théâtre ?
Alors c'est monté comme, pas vraiment comme une pièce de théâtre, mais plus vraiment comme un conte, effectivement. On raconte ces personnages au début vachés qui rentrent de la guerre d'Algérie et qui finalement commencent à devenir chauffeurs, livreurs qui vont ramasser le lait en bidon et qui expliquent que finalement ils deviennent aussi fromagers ou prospecteurs parce que au départ on va chez les fermiers, on va chercher le lait, il faut réussir à les convaincre parce que c'est pas forcément l'habitude des fermiers, qui racontent comment les premières machines arrivent, comment les supermarchés aussi arrivent, et c'est on fait parler ces deux personnages un peu par alternance. On parle aussi de leur vie quotidienne parce que ça aussi c'est important, parce que on pouvait avoir des journées effectivement où on pouvait travailler parfois 12 heures sur des grandes périodes. Donc c'est voir un peu dans quelles conditions on travaillait aussi, mais aussi cet esprit de famille où tout le monde se connaissait, on partageait très souvent des moments après le travail, donc vraiment plus des vies, des histoires d'hommes vraiment qu'on a voulu restituer sur ce travail de conte.
Et vous avez évoqué tout à l'heure, Virginie Lequillier, les technologies, à l'instant les supermarchés, ça a été un choc d'après ce que vous en entendez ?
Alors c'est, on va dire que les supermarchés c'est le début aussi de la concurrence, il faut réussir à sortir un petit peu du lot et pouvoir... dans les années 60, c'est le début évidemment de la grande consommation aussi, la grande production. Donc il faut s'adapter à tout ça. On comprend bien quand on finalement quand on écoute ces témoignages que c'est un gros travail d'adaptation finalement. Où effectivement sur les supermarchés, il y a le travail de commercial qui arrive, qui est assez nouveau aussi. Pour pouvoir mettre en place des partenariats, parfois aussi avec des cadeaux, aussi, voilà. Donc tout le début de ces métiers de commerce qui arrivent, des caravanes aussi publicitaires qui arrivent dans les années 60, c'est aussi l'histoire un petit peu de tout le monde qui ressort aussi à travers tout ça.
Et est-ce que parmi les nombreux publics que vous rencontrez, notamment des personnes, nos aînés qui auraient été agriculteurs, vous entendez beaucoup le discours du « c'était mieux avant » ?
Alors on l'entend, évidemment, on l'entend et on l'entendra certainement encore beaucoup. Après, il faut aussi bien comprendre qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès techniques et notamment sanitaires qui ont permis de progresser qui ont aussi aidé le salarié aussi dans son travail au quotidien, effectivement, puisque c'était quand même très très physique. C'était mieux avant, sachant qu'aujourd'hui il y a encore aussi des savoir-faire qui perpétuent de toute façon des gestes qui continuent d'exister, mais heureusement la science aussi nous a aidé à évoluer sur pas mal d'aspects finalement.
Deuxième temps fort de cette journée de lancement de saison le 9 avril, donc ce sont des ateliers, là vous abordez les métiers passions, il y a une forme de transmission du savoir, de partage d'expérience.
Oui c'est ça, on a voulu un petit peu dans la continuité de ce récit là qui est plus basé sur les savoir-faire d'autrefois finalement, de proposer de découvrir plutôt des métiers d'aujourd'hui et de partager ces métiers qui sont souvent des métiers de passion. Et de proposer aux visiteurs une véritable immersion dans cet univers et là précisément surtout sur le travail des fromagers Alors le fromage, ça démarre avec le lait. Donc au début, bien sûr, on va parler de l'éleveur, on va parler du terroir. On va plonger le visiteur dans les alpages, on va le plonger dans le bocage normand, parce que l'aventure du fromage, elle démarre avec la flore hein, aussi, bien sûr. Donc ça démarre de là, et puis après... On va évoquer le fromager, bien sûr, à travers pas mal de témoignages, et on proposera, pourquoi pas, au visiteur de venir lui-même trancher le cahier, brasser le cahier, pour reproduire aussi ses gestes. Et puis aussi, on va proposer une expérimentation sensorielle pour découvrir les odeurs des caves, puisque le fromage, il va prendre sa maturité. Le travail du maître affineur aussi, c'est de vérifier si le fromage, il acquiert vraiment sa texture, ses arômes. Eh bien, on va proposer de s'essayer, comme ça, à l'analyse sensorielle, et de venir, pourquoi pas, découvrir la texture d'un fromage, voir s'il est plutôt fondant, plutôt crémeux. Et tout ça, bien sûr, c'est lié à ce savoir-faire unique du fromager.
Et là, on parle de terroir français. Plus tard dans la saison, vous allez dépasser un petit peu la France pour vous attacher au territoire méditerranéen et au pays du Levant.
Voilà, exactement. Voilà. C'est un petit peu une introduction qui là, propose vraiment de découvrir le fromage à travers la France. Alors, on a déjà du choix, hein, bien sûr, chez nous en France. Mais après, on va sortir un petit peu des frontières françaises. Et on propose d'abord au mois de juin, alors voilà, ce sera un petit peu le début de l'été, de découvrir plutôt les fromages, mais en Europe du Sud, dans le pays méditerranéen. C'est un petit peu le berceau des fromages, tout ça. Et là encore, c'est une immersion en Grèce, bien sûr, en Italie. Hein, voilà, donc ça va être la découverte de la feta, de la burrata, bien évidemment. On ira aussi en Corse, on ira bien sûr en Provence, parler de certains fromages de chèvre, bien évidemment. Et puis on terminera bien sûr en beauté avec un beau plateau de fromage méditerranéen. Et là encore, vraiment, l'idée, c'est de transmettre ces savoir-faire toujours à travers des démonstrations, des gestes, des témoignages, mais là, plutôt méditerranéen. Voilà, ça, ce sera une première chose. Et puis, un petit peu en continuité dans le bassin méditerranéen, on ira là, plutôt à la fin du mois d'août, le 25 août, bien parler un petit peu des cultures fromagères dans les pays du Levant, parce qu'il faut savoir, c'est quand même très important. Alors, bien sûr, c'est beaucoup de fromages frais, c'est le labné, c'est la loumi. Et là, on proposera vraiment une découverte des coutumes autour de la cuisine, autour de ces fromages-là. Et on vous proposera un atelier de fabrication, de mezzé, par exemple, et bien sûr, de dégustation, parce que c'est ce qui finira en beauté, bien évidemment, tout ça.
Et quels sont les retours des publics en général? Est-ce que vous avez des personnes qui sont venues vous dire, par exemple, « Bah écoutez, moi, avant, j'achetais un fromage comme j'achèterais... un rouleau de sopalin, et puis maintenant bah, j'apprécie d'une manière différente, je partage même avec ma famille, mes amis, toute la culture du fromage. »
Alors oui, et effectivement c'est ce qu'on aime, parce que le fromage on le redécouvre aussi autrement. On essaye nous toujours de donner des conseils effectivement sur le produit, hein, sur le fromage, mais aussi des conseils de dégustation. Parce que le fromage, on peut le consommer en apéritif, on peut le consommer en préparation culinaire, effectivement. Et on amène, nous, le visiteur, à le découvrir, mais en faisant vraiment, là encore, parler des experts sur ces fabrications. L'idée, c'est de donner quelques conseils aussi pour l'apprécier différemment dans son quotidien et de savoir, effectivement, le travailler, le préparer, le cuisiner.
Virginie Lequillet répondait aux questions de Christophe. Pour les vacances de Pâques, deux animations sont proposées sur réservation. Plutôt donc pour les enfants, hein, un jeu aventure en quête de l'élixir lacté et une visite ludique spécialement prévue pour les 5-12 ans. On fait une petite pause avec l'impératrice Peur des filles et on revient juste après.
Elle prépare réfléchir, faut toujours peser ses mots. Désobéir à tes désirs et t'adapter au tempo. Tu comprends pas tout, tout est trop flou. Comme si t'avais bu la tasse, noyée comme tous ces idiots. Les filles, elles respirent sous l'eau. Elles sont bien pires que dans Shakespeare. Elles ont des dents sous la peau. Joue les martyrs, cache un sourire, un revolver dans le dos. Le grand méchant loup, elles sont partout. Tu sens monter la menace. Tu dis ça, t'es pas macho, mais c'est pas des gens comme il faut. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds.
Peur des filles, c'est ce qu'on vient d'écouter dans l'agité du local sur l'autre radio. Et place à notre chronique sport comme chaque vendredi, avec un autre point de vue aujourd'hui, celui d'un arbitre national de basket, David Boivin. Il est interrogé par celui qui évidemment mène cette chronique et ses interviews d'une main de maître, Steven.
Alors, chronique sous le signe de l'arbitrage avec David Boivin, arbitre national issu de notre territoire du pays de Château-Gontier. Merci David d'être avec nous. Alors aujourd'hui, tu fais partie du paysage du basket national. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire pourquoi tu es devenu arbitre ?
J'ai commencé en tant que joueur en U13 au club de Biarnay. En parallèle d'être joueur, à 16 ans, je suis devenu arbitre de club dans les traces de mon père, qui était arbitre départemental à l'époque. J'allais arbitrer le dimanche matin aux billettes dans les clubs voisins. C'est des bons souvenirs. À 18 ans, j'ai passé l'examen départemental. À 20 ans, l'examen régional. Et à 25 ans, le niveau championnat de France. Depuis 5 ans, j'officie au niveau national.
Donc, effectivement, tu officies les catégories Espoir Pro A, Ligue 2 féminine, National 1 et 2. As-tu toujours justement cette adrénaline malgré les années qui passent ?
L'adrénaline, oui. Le plaisir d'arbitrer est resté le même, encore plus aujourd'hui où j'accompagne les jeunes qui arrivent sur les divisions nationales.
Alors, quelle sensation ça fait un peu de pouvoir arbitrer des futurs stars, pardon, parce que tu en as arbitré ?
Oui, tout à fait. C'est une fierté d'avoir arbitré des futurs joueurs des équipes de France qui te disent encore bonjour aujourd'hui, comme je peux croiser parfois Nicolas Batum ou Alain Coffi.
Quel est ton plus beau souvenir ?
En tant qu'arbitre, mon plus beau souvenir, c'est un match en Ligue féminine opposant Bourges à Basketland dans la salle mythique du Prado à Bourges, où j'étais très stressé avant le match. J'ai donc arbitré ce jour-là Céline Dumerc, capitaine emblématique de l'équipe de France, et Valérie Garnier, sélectionneur de l'équipe de France.
Alors aujourd'hui, il y a une problématique, il y a de moins en moins d'arbitres et dans tous les sports confondus, une pénurie difficile à résoudre qui demande des efforts conséquents aux clubs qui doivent justement trouver des bénévoles pour courir des équipes régionales le week-end. Comment toi tu expliques un petit peu cette baisse significative de manque justement d'arbitres ?
Dans un premier temps, le manque de reconnaissance de l'arbitre qui est un simple facilitateur du jeu. Il fait partie d'une rencontre. Dans un second temps, la difficulté des clubs qui ont aujourd'hui des difficultés à trouver des bénévoles et encore plus pour suivre la formation d'arbitre. Et dans un dernier temps, Ce qui me semble un dernier élément, c'est la formation d'arbitre départemental qui me paraît trop théorique.
Alors aujourd'hui, il y a vraiment une thématique, on va dire, plutôt citoyenne, dont les incivilités. Est-ce que tu penses que l'augmentation des incivilités que les arbitres peuvent subir sur des matchs de niveau départemental, régional, voire même de la D3, ne pousse justement pas à prendre le sifflet le week-end ?
Alors, au niveau où j'officie, moi, au niveau national, ou encore à un niveau supérieur, au niveau, il y a très peu d'incivilité. Car les acteurs qui ont une meilleure connaissance du basket ne créent pas de soucis sur les rencontres. Par contre, effectivement, au niveau départemental et régional, où les gens ont une méconnaissance des règles en général, nous rencontrons des problèmes avec le public, avec des parents qui rouspètent dans les tribunes, ou sur le terrain, bien sûr, des joueurs ou des entraîneurs. Mais je ne pense aujourd'hui qu'on n'est pas dans les mêmes difficultés que le football qu'ils rencontrent tous les week-ends.
Et donc, ça fait un petit moment que tu officies, on va dire que tu commences déjà un petit peu à penser à ton après-carrière. Et donc, comment tu souhaites un peu la gérer ou plutôt la terminer ?
Je pense arrêter vers 50 ans, si mon corps me le permet et si je prends encore plaisir à aller arbitrer tous les week-ends. Je réfléchis ensuite à devenir observateur d'arbitres fédéral puis national, qui ont aujourd'hui un rôle de conseil et d'évaluation auprès des arbitres nationaux et fédéraux.
Alors aujourd'hui, que dirais-tu justement à un de nos auditeurs jeunes ou moins jeunes pour justement l'inciter un petit peu à arbitrer le week-end et à donner un coup de main dans leur club ou même à suivre ton parcours qui est très très enrichissant?
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbitrage est une superbe école de la vie. Elle permet d'apprendre à se connaître, à communiquer, à prendre confiance en soi et à prendre des responsabilités.
Merci David en tout cas pour ton engagement, ton parcours qui quand même est exceptionnel. Merci d'avoir répondu au micro de l'autre radio et d'avoir mis un petit peu en avant l'arbitrage qui est un acteur hyper important justement pour que se déroulent toutes les rencontres du week-end et tout sport confondu. Je te souhaite une belle fin de carrière en espérant te voir terminer peut-être sur un beau match à domicile au Pays de Château-Gontier dans un nouveau complexe ?
Nous avons une ambition de construire une nouvelle salle sur Château-Gontier pour 2025. Donc j'espère pouvoir encore arbitrer jusqu'en 2025 et pouvoir un peu inaugurer cette nouvelle salle en 2025.
Eh bien, David, c'est tout ce qu'on te souhaite. Marie, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sport. À bientôt !
À bientôt, Steven. Effectivement, on te retrouvera vendredi prochain, pour une toute autre chronique sportive. On va passer à l'agenda de ce week-end et des prochains jours. Alors, évidemment, c'est non exhaustif. C'est quelques petits événements. Pourquoi petits événements, en tout cas, à trouver ce week-end auquel vous pourrez, je l'espère, vous rendre, si vous en avez envie, une exposition photo proposée au centre hospitalier du Haut-Anjou dans la chapelle Saint-Julien. Proposé donc par le kiosque à images et notamment Yannick Gaillot qui vous propose cette exposition intitulée Le cheval percheron. Elle est visible le week-end de 10h à 17h mais aussi en semaine avec des horaires un petit peu plus étendus. L'entrée est libre et gratuite. Ce dimanche, vous pourrez aussi vous rendre au vide-grenier à Mélédumène organisé par l'association Graines d'Orvie qui tient une épicerie locale. Il est organisé de 9h30 à 17h30 ce dimanche avec également des stands d'artisans et de producteurs locaux. Tous les emplacements et l'événement en général aura lieu en extérieur. Et puis il y aura aussi ce week-end, ce samedi plus précisément, demain, Ousset s'anime, on en parlait dans l'émission de mercredi, organisée par des étudiants de la licence professionnelle et donc de l'association Asso Culture à partir de 16h à Ousset, autour de la Loupiote notamment, avec beaucoup de choses, aussi bien des concerts, du théâtre d'objets, une chorale. Tout ça, ce sera à retrouver samedi avec effectivement beaucoup d'autres événements. Je vous l'ai dit, hein, c'est un agenda non exhaustif. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce vendredi. Mais restez avec nous puisqu'à 20h, il y aura Passe-moi le thème, 2 heures d'émission autour d'un thème choisi qui réunit plusieurs musiques. Et vous le verrez, en général, les thèmes sont assez originaux. Et puis ce week-end sur nos ondes, entre autres évidemment samedi à 11h, il y aura L'Enfant a des droits. À 13h, ce sera Rock Dreams et à 17h, Bud Station. Et puis ne manquez pas non plus dimanche à 11h, Sport Épique. Nous, on se retrouve lundi à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.